France Musique.
Mon cœur est un violon, sur les traces des grandes violonistes.
Marina Chiche, France Musique.
Bonjour, heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous estival sur France Musique autour des grandes violonistes. Dans le précédent épisode, je vous ai raconté les pionnières du 19e siècle, des sœurs Milanolo à l'américaine Maud Powell. À la fin du 19e, les choses ont bougé du côté de la professionnalisation des femmes et de leur accès aux études supérieures. À Saint-Pétersbourg, cependant, il faut attendre le tout début du 20e siècle pour voir la première femme rentrer dans la classe légendaire du grand Leopold Auer. C'est une classe qui semble aimanter tous les talents les plus prodigieux du violon. Michael Mann, Jascha Heifetz, Nathan Milstein, Tosha Seidel, Ephraim Zimbalist. Mais aussi des femmes exceptionnelles dont il faut se rappeler les noms. Aujourd'hui, je vais vous en présenter trois. Elles sont nées dans les années 1890. Il s'agit de la Canadienne Kathleen Parlow, la Russe Cecilia Hansen et la Britannique Isolde Menges. Les archives sonores crépitent, mais c'est un peu comme regarder un film en noir et blanc. Alors, fermez les yeux et imaginez plutôt. Je vais vous raconter l'histoire de la Dame à l'Archer d'Or. Nous sommes à Saint-Pétersbourg, au tournant du siècle, c'est la Russie impériale. De jeunes talents affluent des différentes provinces, d'Ukraine, des Pays-Baltes. Tous ces jeunes garçons arrivent, le violon sous le bras, plein d'ambition. Et se dirige vers la classe du maître Leopold Auer. Auer trône, assis dans son fauteuil en velours, sa barbe et son front dégarnis lui donnant des airs de vieux sage. Quelle ébullition chez les jeunes adolescents! Mais tiens, c'est une jeune fille qui joue. Elle est grande, toute fine, avec de longs doigts, des cheveux bruns. Elle a un air un peu mélancolique. Quelle sonorité! C'est la jeune Kathleen Parlow. La sonorité chaleureuse de la violoniste canadienne Kathleen Parlow dans la mélodie en fa d'Anton Rubinstein. Anton Rubinstein, le grand pianiste et directeur du conservatoire de Saint-Pétersbourg à la fin du XIXe siècle, ne pouvait s'empêcher de dire que pour lui, le nombre croissant de femmes en musique était un signe de la décadence de notre art. Quelques décennies après, Kathleen Parlow va lui donner tort, et ce ne serait que le début. Née en 1890 au Canada, elle est fille unique. Ses parents déménagent à San Francisco quand elle a 4 ans. Ses débuts précoces au violon sont remarqués. Alors, comme c'est la coutume aux États-Unis, il faut prendre la direction de l'Europe. Kathleen et sa mère, Minnie, partent donc à Londres. Kathleen a 15 ans. On lui propose aussitôt une bourse pour aller étudier auprès du grand violoniste belge Eugène Isaïe. Mais elle assiste au concert d'un jeune violoniste russe de 15 ans aussi, un certain Misha Elman. Elle est très impressionnée par son Tchaïkovski, mais surtout par son Bach. C'est décidé, il faut qu'elle aille travailler avec le même professeur que lui. Et ce professeur, c'est Leopold Auer, qui par chance est justement venu dans la capitale britannique pour coacher le jeune Elman dans ses débuts. Kathleen obtient une audition pour le maître Auer. Il l'invite aussitôt à venir étudier avec lui dans sa classe à Saint-Pétersbourg. Malgré les nouvelles inquiétantes venant de la capitale russe, il y a des émeutes de plus en plus violentes et il y a l'attentat terroriste contre le grand-duc Serge, la mère et la fille font leurs valises et se mettent en route en septembre 1906. Elles arrivent sur place en octobre. Kathleen est non seulement la première étrangère à étudier au conservatoire de Saint-Pétersbourg, mais c'est aussi la première femme. Sur France Musique, la gavotte de la troisième partita en mi majeur de Jean-Sébastien Bach, jouée par Kathleen Parlow, la violoniste canadienne, élève de Leopold Auer. À Saint-Pétersbourg, Kathleen s'immerge pleinement dans la culture russe et profite de chaque occasion. Elle va écouter les sublimes chants orthodoxes chantés a cappella dans la cathédrale Saint-Isaac. Elle assiste au concert du grand violoniste belge Eugène Isaïe, fameux concert où il se fit voler son Guarnerius pendant qu'il était sur scène en train de jouer son Stradivarius. Elle entend aussi le légendaire chanteur Fedor Chaliapin dans le rôle-titre de Boris Godounov de Mussorgsky et rencontre les pianistes Alexander Zilotti, Sergei Rachmaninov ou Joseph Hoffmann. C'est une période extraordinaire pour la jeune femme, elle absorbe tout. Au conservatoire, Auer semble avoir le génie pour créer les conditions propices à l'éclosion de personnalités très diverses. Kathleen assiste religieusement à la classe, 2 après-midi entières chaque semaine. Elle écoute attentivement tous ses camarades, que ce soit Zimbaliste ou Piastro. Elle se retrouve la seule femme au milieu d'une quarantaine d'adolescents, tous plus talentueux les uns que les autres. Et la compétition est rude. Au début, elle est un peu intimidée, mais elle ne se laisse pas décourager. Bien au contraire, cela la motive. Elle travaille d'arrache-pied. Le Moto Perpetuo de Paganini, enregistré brillamment par la violoniste Kathleen Parlow en 1909. Au Conservatoire de Saint-Pétersbourg, Kathleen Parlow fait des merveilles. Elle est choisie par Auer pour jouer le concerto de Glazounov sous la direction du compositeur lui-même, qui est aussi le directeur du conservatoire. D'ailleurs, elle sera bien contente de pouvoir le connaître quand il lui faudra plaider sa cause lors de son examen de piano pour lequel elle n'a rien préparé. Auer présente sa jeune élève en concert. Il lui sert de coach dans sa carrière et de conseiller financier. Elle garde sagement une photo de Papa Auer, comme elle l'appelle, dans sa boîte de violon. Avec sa maman qui l'accompagne partout, elle est bien entourée. Âgée de 17 ans, elle fait des tournées dans toute l'Europe et fait sensation. C'est lors de sa tournée dans les pays scandinaves qu'elle tape dans l'œil d'un fringant homme d'affaires norvégien d'une quarantaine d'années, issu d'une famille très en vue, un certain Einar Bjørnson. Pour vous donner une idée, le père de Bjørnson a reçu le prix Nobel de littérature en 1903. Bjørnson se met en tête de trouver un beau violon pour Kathleen Parlow, un violon à la hauteur de son talent. Quelle générosité! Mais attention, il peut être risqué pour une jeune violoniste de se faire acheter un beau violon. C'est rarement sans condition. Effectivement, c'est là que l'histoire devient croustillante. Einar Bjørnson achète à Kathleen un sublime Guarnerius del Gesù de 1735 qui vaut littéralement une fortune. Le hic, c'est que Bjørnson est à ce moment-là au bord de la faillite. Ce n'est donc pas avec son argent qu'il achète le violon pour la jeune violoniste, mais avec le capital de sa femme. Oui, il est marié. Et il emprunte aussi à son père la quasi-totalité de l'argent que celui-ci a reçu pour son prix Nobel. Bjørnson ne remboursera jamais l'argent et créera le scandale quand il quittera pendant quelque temps femme et enfant en faveur de Parlow, qui a 25 ans de moins que lui. Bon, assez de potin pour aujourd'hui. Lors de ses passages en Norvège, Kathleen sympathise avec le compositeur violoniste Halvorsen, qui lui écrit un concerto. Le concerto sera finalement un échec à sa création. Halvorsen, très dur avec lui-même, demandera à ce que la partition soit détruite à sa mort. Mais heureusement, Kathleen en conservera une qui a été retrouvée récemment dans ses archives. France Musique, nous écoutions la chanson norvégienne d'Halvorsen, enregistrée en 1909 par la violoniste canadienne Kathleen Parlow, la première femme à entrer au conservatoire de Saint-Pétersbourg dans la classe de Leopold Auer. De 18 à 35 ans, Kathleen Parlow continue d'enchaîner les tournées. En Europe, elle donne des concerts importants, par exemple, elle joue le concerto de Mendelssohn au Gewandhaus de Leipzig pour les commémorations du compositeur en 1909. Puis elle fait sa première grande tournée nord-américaine. Pendant la Grande Guerre, elle joue en Hollande et dans les pays scandinaves, ainsi qu'en Amérique du Nord, bravant les sous-marins atlantiques. En 1920, c'est à nouveau Amérique du Nord, puis Chine, Philippines, bref, elle n'arrête pas. Mais en 1926, à 36 ans, elle ressent une fatigue extrême. Elle traverse une dépression et songe même à tout arrêter. Elle a perdu ses illusions sur la vie d'artiste, toujours sur la route, gagnant parfois des cachets à peine suffisants pour couvrir les frais. Elle s'installe à San Francisco avec sa mère et décide de mener une vie plus posée. Elle commence à enseigner au Mills College à Oakland. Au début des années 40, elle joue au Canada et donne des masterclass dans son pays natal avec grand succès. Suite à cela, sur l'invitation du compositeur-pianiste Sir Ernest Macmillan, elle devient professeure au Conservatoire de Toronto. C'est un tournant pour elle. Elle a 50 ans. Elle se pose enfin, fonde le Parlow String Quartet, dont elle est la seule femme. Avec Sir Macmillan, c'est une belle collaboration. Ils sont parfois rejoints par la brillante et jeune violoncelliste canadienne Zara Nelsova pour former le Canadian Trio. Mais ils jouent aussi régulièrement en duo. Thank you. Dans la deuxième sonate de Grieg, nous écoutions la violoniste Kathleen Parlow et le pianiste Sir Ernest Macmillan. Un très bel enregistrement qui nous vient de la radio canadienne. En 1954, Minnie, la mère de Kathleen, qui a toujours été aux côtés de sa fille, meurt. Kathleen s'effondre. Elle continue quand même d'enseigner et continue de porter la parole d'Auer, qui lui disait de faire chanter son violon avant tout. Celle qu'on surnomma la Dame à l'Archer d'Or s'éteindra en 1963 à 73 ans.
Mon cœur est un violon.
Marina Chiche, France Musique.
Passons maintenant à l'histoire de notre deuxième princesse de l'école de Saint-Pétersbourg, ou plutôt, dois-je dire, à notre reine du violon. Juste après le départ de Kathleen Parlow de la classe de Leopold Auer, c'est donc une nouvelle jeune femme très talentueuse qui arrive dans la classe en 1908. Une jeune fille très blonde de 11 ans, elle est russe, d'origine danoise par son père. Elle s'appelle Cecilia Hansen, ou plutôt Cecilia Gansen, comme disent les Russes. Elle restera jusqu'à ses 17 ans dans la classe. Si Auer surnomma Kathleen Parlow la Misha Elman en jupon, Cecilia Hansen sera surnommée le Heifetz féminin. Elle sera d'ailleurs dans la classe en même temps que le jeune Yasha. Et quand il sera interviewé, quelque temps après son arrivée aux États-Unis à la suite de la révolution russe de 17, il se souviendra avec une émotion certaine du temps passé dans la classe d'Auer, où il aimait écouter justement les cours de Myron Polyakin et de Cecilia Hansen. Certains disent même qu'il n'était pas indifférent au talent et à la grande beauté de la jeune femme. D'ailleurs, quand on lit les témoignages et les histoires de la classe d'Auer de cette époque, encore plus qu'avec notre première violoniste Kathleen Parlow, on est en plein syndrome de la Schtroumpfette. Vous savez, le syndrome de la Schtroumpfette, c'est quand dans un film ou une série télévisée, vous avez une femme isolée dans un univers majoritairement masculin. Femme, en général, définie de manière plutôt stéréotypée. Bon, ne nous y trompons pas. Dans le cahier de notes et commentaires dans lequel Auer inscrivait ses impressions sur le potentiel de ses élèves, il met trois points d'exclamation enthousiastes à côté du nom de Hansen, comme Heifetz et Polyakin. C'est une élève remarquable. Elle remporte d'ailleurs à 14 ans une médaille pour son concerto de Beethoven. Écoutez plutôt. Aucun doute, c'est une sacrée violoniste. Thank you. C'était le rondino d'Henri Vieuxtemps par la violoniste Cecilia Hansen et le pianiste Boris Sakharov en 1924. C'est justement au conservatoire de Saint-Pétersbourg que Cecilia rencontre le pianiste Boris Sakharov qui deviendra son mari. Il traîne avec d'autres jeunes musiciens étudiants en composition, Nikolai Miaskovsky et Sergei Prokofiev. Prokofiev est un peu méfiant avec Cecilia au début. Il faut dire qu'elle est distante, et avec raison. Les jeunes hommes sont célèbres pour faire la noce. Sakharov, d'ailleurs, perd régulièrement de l'argent au jeu, l'argent de Cecilia, bien sûr. On se croirait dans un roman de Dostoïevski. En 1917, à 20 ans, elle donne naissance à sa première fille. Quelle belle sonorité! Nous écoutions la berceuse du compositeur russe César Cui, Cecilia Hansen au violon, accompagnée de son mari de l'époque, le pianiste Boris Sakharov. Cecilia Hansen reprend ses tournées en Europe, même si la Première Guerre mondiale a déjà freiné son lancement. En 1921, la situation politique devient intenable. Cecilia et Boris fuient la Russie. Elle joue alors aux États-Unis où le couple retrouve leur ami Prokofiev, lui aussi exilé. En 1925, Prokofiev décide de transcrire ses 5 mélodies initialement composées pour voix comme vocalise 5 ans plus tôt. Il les transcrit pour le violon grâce à son ami Paul Kochansky. Cecilia est convaincue que la deuxième mélodie serait merveilleuse au violon. Il lui dédie cette mélodie, une musique mélancolique qui lui va si bien. Il existe d'ailleurs un portrait célèbre de Cecilia par le peintre russe Ilya Riepin. Cecilia y est assise, son violon sous le coude, une robe claire en mousseline, avec un beau bandeau bleu dans les cheveux. Elle est perdue dans ses pensées, les yeux au loin. Cette deuxième mélodie de Prokofiev s'écoute un peu comme on regarde ces bibelots en verre en forme de boule de neige que l'on secoue. La neige tombe. Il fait froid soudain, vous ne trouvez pas ? Sur France Musique, nous écoutions la deuxième des cinq mélodies de Prokofiev pour violon et piano avec David Oistrakh et Frida Bauer. C'était un live à Prague. Dans les années 20, lors de ses tournées triomphales aux États-Unis, Cecilia Hansen fera forte impression, notamment sur le tout jeune Yehudi Menuhin. Dans son souvenir, c'est un ange qui apparaît sur scène. Elle est d'ailleurs intronisée par la presse, la reine du violon. En 1924 et 1925, elle enregistre pour le label RCA Victor, à une époque où la compagnie enregistre aussi Yasha Heifetz ou Misha Elman.
Thank you.
Merli Kati de Yeno Hubai, joué par la violoniste Cecilia Hansen, accompagnée par son mari, le pianiste Boris Sakharov. C'est un enregistrement de 1925. En 1928, trois ans plus tard, la vie personnelle de Cecilia Hansen prend un tournant inattendu. Lors d'une tournée en Asie, son mari, le pianiste Sakharov, décide de rester vivre à Shanghai. Il y deviendra un professeur important. En attendant, le couple se sépare. Cecilia s'installe alors à Londres avec sa fille. Elle se marie pour la deuxième fois et donne naissance à une deuxième fille. Mais là, à nouveau, la grande histoire rentre en jeu et le destin frappe. En 1940, pendant un bombardement aérien allemand, sa jeune fille de 2 ans est tuée. Quelle vie tragique! Il ne reste peu d'enregistrements de Cecilia Hansen, mais en 1947, grâce à des circonstances étonnantes, elle enregistre la sonate du compositeur russe Nikolai Metner avec le compositeur lui-même au piano. Un maharaja tombé amoureux de la musique de Metner en écoutant sa sœur travailler une pièce du compositeur a décidé de financer l'enregistrement de l'œuvre de Metner. Thank you. Un extrait de la première sonate de Nikolai Medtner, le compositeur russe au piano, et Cecilia Hansen, une de nos héroïnes du jour. Cecilia Hansen suivra son deuxième mari, nommé professeur de philosophie à la prestigieuse université de Heidelberg. Elle y enseignera aussi le violon jusqu'à la mort de son mari, avant de revenir à la fin de sa vie à Londres auprès de sa fille, où elle disparaîtra en 1989 à plus de 90 ans. Une véritable traversée du siècle et un parcours de vie incroyable pour celle qu'on surnomma la reine du violon. Notre troisième héroïne du jour, après Kathleen Parlow et Cecilia Hansen, est née en 1893 à Londres de parents allemands. Elle se prénomme Isolde. Après s'être formée auprès d'Émile Sauré, c'est à 17 ans qu'Isolde Menges arrive à Saint-Pétersbourg. Elle devient l'une des élèves préférées d'Auer. Elle a des facilités indéniables. Ensemble, ils couvrent tout le répertoire. La preuve, elle enchaîne une quantité de programmes hallucinantes lors de ses débuts à Londres. Et sans problème. En 1913, au Queen's Hall, elle joue le concerto de Tchaïkovski, suivi de la symphonie espagnole de Lalo. En février, le concerto de Wieniawski en ré mineur, le Beethoven. En mai, le concerto de Brahms et le concerto de Glazounov. En 1915, c'est pareil. Elle enchaîne une série de trois récitals au Bechstein Hall à Londres. Au programme, la sonate à Kreutzer de Beethoven, sonate de Lequeux, sonate de Brahms, la deuxième de Schumann, la chaconne de Bach. Et pour finir ses programmes, elle joue des pièces de virtuosité. Thank you. Sur France Musique, nous écoutions le Zéphyr de Yeno Hubai, joué par la pétillante Isolde Menges en 1925. Avec la Première Guerre mondiale, Isolde Menges est suspectée d'être une espionne. Effectivement, ses parents sont nés en Allemagne et elle habite à Londres. Dans ce climat d'hostilité, il est plus sage pour elle de prendre ses distances. Elle part faire une tournée aux États-Unis en 1916. Le succès est tel que sa tournée se prolonge jusqu'en 1919. Un critique du New York Herald en 1917 note sa technique merveilleuse et parfaite et sa sonorité qui a, je cite, « le volume et la solidité d'un homme mûr plutôt que celle d'une artiste femme ». C'est aussi sa maturité qui impressionne déjà. Isolde Menges est une grande musicienne d'une intelligence rare. Sur France Musique, nous écoutions la fugue de la première sonate en sol mineur de Jean-Sébastien Bach par la violoniste britannique Isolde Menges, notre troisième héroïne du jour. En 1921, elle retrouve aux États-Unis Leopold Auer qui a fui la Russie dès la Révolution d'octobre. Il sera d'ailleurs nommé en 1926 à la Juilliard School, puis prendra la succession de Carl Flesch au Curtis Institute de Philadelphie à 84 ans. En 1931, Isolde Menges fonde un quatuor à son nom et commence à enseigner au Royal College de Londres. Elle se produit de moins en moins en soliste, mais dans la deuxième partie du XXe siècle, elle développe une grande réputation de pédagogue et de chambriste. Thank you. C'était Morgen de Richard Strauss, chanté par Elisabeth Schumann, avec le bouleversant solo de violon joué par la merveilleuse Isolde Menges. C'est ainsi que nous refermons notre épisode en immersion dans la classe du professeur Auer à Saint-Pétersbourg au tournant du siècle. Auer, qui fut considéré comme le père de l'école russe. Pourtant, Auer était hongrois. D'ailleurs, à la même époque, à Budapest, les jeunes filles violonistes se bousculent. C'est une véritable pépinière dans la classe de Jenő Hubay. Eh bien, dans notre prochain numéro, nous partirons donc à Budapest. Merci à l'équipe de l'émission, Françoise Cordet, Valentin Carpentier et Antoine Espel. Cet épisode est disponible à la réécoute quand vous le souhaitez sur francemusique.fr. On se retrouve dimanche prochain à 17h.
Est un violon.
À réécouter sur francemusique.fr.